en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Bienvenue dans cette émission en séance. Je vous propose aujourd'hui de parler du burin, de la gravure au burin, un outil d'orfèvre utilisé dès 1430 comme instrument de création et de revenir sur l'histoire de l'estampe avec Claude-Jean Darmon, correspondant de l'Académie des Beaux-Arts, qui était en séance le 5 décembre 2007 dernier.
Je vous remercie, monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur le président de l'Académie des Beaux-Arts, de m'avoir invité à m'exprimer sur l'esthétique de la gravure au burin et non la technique. Pendant le moment que nous allons passer ensemble, plusieurs planches vont évoquer l'étendue des registres expressifs d'un instrument de création entré dans l'histoire de l'estampe vers 1430 et qui fut originalement un outil d'orfèvre. Résonance du burin créateur. Deux séquences seulement, afin de ne pas aller au-delà du temps habituellement dévolu à nos communications. Première séquence, temps fort du burin créateur au cours de son évolution du XVe siècle à nos jours. Seconde séquence, du burin créateur au burin transcripteur, brève réflexion sur la gravure d'interprétation. Séquence éclair, 10 minutes, essentielle. Séquence 1. Deux allusions techniques, pas trois. Seulement pour rappeler qu'avant d'être création sur papier, une gravure au burin est création sur cuivre. Barre d'acier trempée, biseautée en son extrémité tranchante, le burin est plus ou moins profondément poussé dans l'épaisseur du cuivre à la manière d'un soc de charrue. Chaque entaille obéit à un parcours autonome, chaque entaille extraite un copeau de métal, on le voit à l'écran, qui saute en fin de trajectoire. Le libre jeu linéaire en tous sens, comme celui du crayon sur papier, est naturellement interdit. À l'épreuve, l'intensité du noir est en quelque sorte proportionnelle au degré de pénétration de l'outil dans le cuivre. Je devrais dire l'intensité du gris, car pour voir le noir, il faut être, on le sait, dans la chambre de Newton, et ne plus voir, en raison de l'absorption de la lumière. Et quelques grands moments du burin créateur. D'abord au cours de ses deux premiers siècles d'existence, et principalement en Allemagne, aux Pays-Bas, en Italie, où presque tout se joue. Dans l'histoire de la gravure au burin, il est bien difficile de ne pas faire un fondu enchaîné 15e, 16e, car plusieurs burinistes créateurs majeurs du 16e siècle sont nés au 15e siècle et y plongent leurs racines, à commencer par Dürer, et Lucas de Lède. Martin Schongauer, vraisemblablement né entre 1440 et 1450, est le premier graveur rhénan dont le monogramme MS recouvre une identité, une œuvre, une personnalité clairement définie. Ces 116 gravures, probablement exécutées de 1465 à 1491, constitue la première expression véritablement magistrale de l'art du burin imprimé, dont les tout débuts ont été illustrés quelques 30 ans auparavant par plusieurs artistes anonymes, comme le maître des cartes à jouer ou le maître ES, j'en reparlerai dans quelques instants. Tous les historiens de la gravure, tous les collectionneurs même sont aujourd'hui en accord sur ce point, à l'unisson. Schongauer a gravé son monogramme dans tous ses cuivres, mais n'en a daté aucun. Il a heureusement été possible d'en retrouver le fil conducteur chronologique en se fondant principalement sur des données stylistiques et techniques. La Tentation de Saint-Antoine, à l'écran, est une œuvre de jeunesse. Michel-Ange, adolescent, admirait ce burin au point d'en avoir fait une transcription peinte. Au dire de Vasari, dans son livre « La vie des plus excellents peintres », écrite au XVIe siècle. Michel-Ange n'a jamais gravé. Schongauer montre ce cénobite de la Thébaïde, souvent en proie à des délires érotiques, délivré du mal par des anges qui tentent de l'attirer dans les airs, vers le ciel. C'est alors que des hordes de diables zoomorphes surgissent dans son esprit, font obstacle à cette ascension en s'agrippant à son froc et en exerçant sur lui toutes sortes de sévices. Sa conscience de chrétien étant perturbée, son subconscient secrète des images punitives. L'iconographie de saint Antoine se présente sous deux versions. L'assaut terrestre, très fréquent. L'attaque céleste, plus rare. C'est de l'attaque céleste qu'il s'agit ici. Au XVe siècle, l'art s'empare souvent de ces visions, propres à satisfaire un certain goût de la sorcellerie et de la démonologie. Style caractéristique des premiers cuivres de Schongauer, graphisme éclaté, composition rayonnante, en taille sensible et assez peu profonde, comme celle des premiers burinistes anonymes. Puis son entaille s'approfondira. La forme gagnera en force en des compositions à plusieurs personnages, l'arrestation du Christ, ou encore des images d'une concision extrême et d'une surprenante modernité. Le griffon, vierge folle, graphisme tendu, implacable, concentré. Certes, il ne s'agit pas de la Vierge Marie, de la Sainte Vierge, mais d'une jeune fille attendant l'époux. Allusion à la parabole des vierges sages et des vierges folles, consignée avec la parabole des talents dans ce qu'il est convenu d'appeler l'Apocalypse de saint Matthieu. Les sujets de Schongauer relèvent surtout de l'iconographie religieuse. Sur 116 burins, 29 seulement ont une connotation profane. 10 planches ornementales aux multiples volutes et entrelacs rappellent en outre que ce buriniste a été formé comme le sera Dürer dans l'atelier d'un père orfèvre. Le grand encensoir gothique. Lorsque, en 1491, à l'âge de 20 ans, Dürer se rend à Breisach pour dire à Martin Schongauer son admiration. Il est reçu par trois frères de l'artiste qui venaient de s'éteindre le 2 février, probablement emportés par un de ces retours de peste si fréquents à cette époque dans le Haut-Rhin. Dürer se porte alors acquéreur d'une épreuve de la tentation de saint Antoine. Et plus tard, il achètera d'autres gravures de Martin. On sait que Dürer était collectionneur, comme le sera Rembrandt, un peu moins passionnément, cependant. Et cet autoportrait peint à la fleur de ricin date précisément de l'année où Dürer réalise sa première gravure répertoriée, 1493. Auparavant, il faisait son apprentissage de graveur dans l'atelier de son père orfèvre et de peintre dans l'atelier de Wolgemuth. Dürer a 22 ans, l'œuvre est dédiée à sa fiancée Agnès Frey. Il tient en main la fleur de ricin, symbole de fidélité conjugale. Plus tard, Dürer ne sera pas fidèle dans sa vie sentimentale. Dürer ne nous a laissé aucun autoportrait gravé, à la différence de Rembrandt, prolixe en la matière, à qui l'on doit 30 mini-autoportraits, pages sensibles et vibrantes. Cette eau-forte de très petite dimension, 4 sur 5 cm, Rembrandt riant, tient miraculeusement plusieurs fois agrandi à l'écran. C'est confondant, c'est magique. Mais Dürer est graveur jusque dans sa peinture même. La ligne de son pinceau est aussi implacable que l'entaille de son burin. Elle n'éclate jamais sous la furia de la touche. On l'a vu à l'instant dans l'autoportrait à la fleur de ricin. Son œuvre gravée dans le cuivre, 107 pièces au total, 33 années de création, depuis le Grand Courrier, 22 ans, 1493, jusqu'à Érasme de Rotterdam, 55 ans, 1526, 2 ans avant sa mort. Le monstre marin est une œuvre de jeunesse. 1498, 27 ans, gravure narrative. Un être terrifiant, mi-homme, mi-poisson, enlève sur le lieu de sa baignade une jeune fille nue, dotée d'une longue barbe, portant des bois de cerf sur le front. Le ravisseur a pour arme une carapace de tortue. Cette histoire se racontait à la fin du XVe siècle comme un fait véridique. Il s'agit en vérité d'une de ces terribles légendes anonymes dont l'origine remonte à l'Antiquité. Le Burin, inspiré de Dürer, a métamorphosé cette narration en une immortelle fable graphique aux proportions invraisemblables. Les vagues sont plus intelligemment ciselées qu'aucun joyau sorti de l'atelier paternel. Cette gravure était autrefois intitulée « L'enlèvement d'Amimonée ». Némésis, 1501, 29 ans, image de la déesse grecque de la justice distributive et de la vengeance. Planche mystérieuse dont la juste signification n'a pu véritablement être décryptée. Dans la poésie latine de Policien, qui en est la source d'inspiration, Némésis est identifiée à la capricieuse fortune planant dans le vide, vêtue d'un manteau blanc, déchirant les airs de ses ailes sifflantes, emportée par la bourrasque, tenant toujours la coupe et la bride de harnais, symbole de récompense et de châtiment. Le Burin de Dürer a transformé le manteau blanc de Policien en une étoffe flottante, suggérant le souffle du vent. Au poète, il était facile de faire passer la déesse de l'immobilité au mouvement. Le graveur devait choisir définitivement. Il a opté pour une forme statique, sculpturalement modelée. Némésis est suspendue sur sa sphère en un miraculeux équilibre, défiant les lois de la pesanteur. Le pouvoir de suggestion de ce Burin nous transporte dans un monde d'autant plus fascinant que tout est défini, délimité, accusé, avec une précision extrême jamais surréaliste au XXe siècle, n'est ainsi parvenu à concilier observation analytique et projection de l'imaginaire avec cette puissance, cette aisance graphique. Puissance suppose d'ailleurs aisance, en gravure comme ailleurs. Adam et Ève, un des plus célèbres burins de l'artiste, c'est sous l'influence du graveur vénitien Jacopo degli Barbari, de son vrai nom Jacob Valk, humaniste de grande culture, que Dürer crée à 33 ans, en 1504, son Adam et Ève. Jacob Valk vit à Nuremberg chez son ami Dürer de 1500 à 1504 et l'initie au canon de la forme antique selon Vitruve. Adam et Ève est une gravure précisément considérée comme un hymne à la beauté du corps humain, tel que la concevaient, dit-on, les statuaires de l'Antiquité grecque. N'est-elle pas surtout un parfait archétype de la pureté linéaire et de l'incomparable signographie de l'artiste? La richesse signographique dans le traitement de l'écorce des arbres, la chevelure d'Adam et Ève, le pelage des animaux, les feuilles et les roches. Mélancolia. Mélancolia 1, 1514, Dürer à 43 ans. L'œuvre est envoûtante. Silence contemplatif. Une des plus belles pages oniriques de tous les temps, la perfection formelle de Dürer est l'expression nécessaire de son merveilleux. Il nous conduit vers la méditation. Méditation, telle pourrait être l'intitulé de cette gravure. Pour des siècles et des siècles, le burin, la plus ancienne technique de la gravure sur métal, sera associé au nom de Dürer, comme le piano au nom de Chopin. Sans doute, on ne peut dire que Mélancolia n'appelle aucun commentaire. Chaque détail si amoureusement ciselé de cette composition avait en son temps un sens étymologique précis. Ainsi, le carré magique, dont la somme de toutes les colonnes donne 33, ou le polyèdre en pierre, renvoyant à la géométrie descriptive et à la représentation en perspective. Mais est-il indispensable d'en avoir toutes les clés pour communier avec ce bel ange aux ailes repliées? Dürer est sans doute un artiste cérébral. N'est-il pas aussi un chantre de l'imaginaire? Mélancolia 1 incarne, je crois, la symbiose d'une figuration symbolique et d'une vision de rêve. Son authentique perception requiert un regard détaché de toute spéculation intellectuelle. Telle était l'approche romantique de l'œuvre. William Blake et Gérard de Nerval possédaient tous deux une épreuve de cette gravure. Mélancolia 1 ne quittait pas leur table de travail. Ils passaient des heures à la contempler. Lorsqu'on est en présence d'un chef-d'œuvre, comme Mélancolia, dans un beau tirage d'époque évidemment, ou les trois croix de Rembrandt, une des plus fascinantes pointes sèches de l'histoire de l'estampe, ou le repas frugal de Picasso, une des plus belles eaux-fortes du monde occidental, on perçoit concrètement le véritable sens de l'expression gravure originale. Et surtout d'une création gravée dans sa texture vivante, spécifique. Si Durer a recours au cuivre et au burin pour réaliser Mélancolia, ce n'est assurément pas, d'abord, pour multiplier un dessin. Il y a d'excellents graveurs de reproduction à son époque. C'est précisément pour émettre des résonances autres que le dessin, car aucun dessin au monde, ni plume, ni lavis, ni crayon, ni fusain, ne peut donner au blanc cette qualité de luminosité et aux valeurs grises et noires cette densité, ce vibrato obtenu par un jeu structuré d'entailles linéaires juxtaposées ou superposées, répétées au cours de plusieurs états successifs qui sont autant de métamorphoses. Et lorsque Durer imprime manuellement, une à une, 10, 20, 30, 40 épreuves, plus encore de Mélancolia, il ne réalise pas 10 fois, 20 fois, 30 fois, 40 fois une reproduction de son cuivre, mais 10 fois, 20 fois, 30 fois, 40 fois, une épreuve originale, issue d'un cuivre originel. L'impression sur papier étant, c'est le moment de le dire, le prolongement naturel de l'œuvre sur cuivre et non sa reproduction, le point d'aboutissement de l'œuvre sur cuivre et non sa reproduction, le deuxième temps, toujours renouvelé d'une seule et même création. La peinture et réalisation en un temps, la gravure et création en deux temps. Pour avoir une reproduction de Mélancolia, il faut photographier une épreuve purement et simplement. Et la reproduction vaudra toujours le même prix, le prix du papier et de sa qualité technique, tandis que l'épreuve, elle, avec sa texture vivante, subira les hausses et les baisses de toute œuvre originale. Simple comparaison, forcément artificielle, puisque par définition une comparaison est un artifice et qui parfois projette un éclairage. Lors d'une récente tournée avec l'Orchestre philharmonique de Berlin, Claudio Abbado a dirigé exactement de la même manière, dit-on, 10 fois la 9e symphonie de Beethoven. De la même manière, car il a bien mûri son interprétation. A-t-il fait entendre 10 reproductions de la partition ou 10 fois l'œuvre originale elle-même ? Un cuivre gravé est un peu comme une partition musicale. Une partition musicale est un potentiel silencieux qui devient réalité sonore perceptible grâce à l'exécution vocale ou instrumentale. Un cuivre gravé non ancré est un potentiel indéchiffrable qui devient réalité visuellement perceptible grâce à l'impression sur papier. La peinture est le seul art au monde où création originale égale non multiplication. Une création est faite pour engendrer. Il y a de multiples originaux de la mélancolie de Durer. Au pays du burin, nous sommes assurément sur l'Himalaya avec Durer. Mais il est d'autres auteurs dans la gravure rhénane au XVIe siècle. On ne peut les passer sous les silences. Ainsi, Veit Stoss, un des principaux sculpteurs du gothique tardif. Sa déploration du Christ est en quelque sorte une composition pré-cubiste en raison des angularités et des rythmes graphiques à connotation géométrique. Le dessin de la draperie rappelle ses bas-reliefs en bois. Aldegrever, un élève de Dürer, artiste curieux, dont les personnages allongés sont tracés dans un style inédit, un maniérisme sans doute, mais de bon aloi et qui produit son effet. Le baiser, la promenade, double intitulé pour cette gravure. Le Bavarois Altdorfer, surtout également peintre et aquafortiste, manie le burin avec liberté, alacrité. Il y a de la magie dans cette éclaboussure de lumière qui inonde le corps du supplicié, se profilant sur un ciel traversé par de fougueuses hachures. Et pour mettre un point final à ce parcours éclair, ces quelques temps forts de la gravure rhénane au XVe et XVIe siècle, un retour en arrière, procédé cinématographique, sur deux étonnants prédécesseurs de Martin Schongauer qui comptent parmi les tout premiers burinistes de l'histoire de l'estampe. Le maître des cartes à jouer et le maître E.S. On ne connaît guère, je pense, de buriniste majeur antérieur au maître des cartes à jouer. Un artiste anonyme de la région supérieure du Rhin à qui on attribue 166 gravures, probablement exécutées entre 1430 et 1453. Roi des Fauves, une des 60 compositions constituant le plus ancien jeu de cartes gravé dans le cuir. Silhouette élégante à l'allure chorégraphique, simplicité du graphisme, contours écrits avec certitude, blanc discrètement rompu par de fines modulations à l'aiguille, conception aérée de la mise en page, le temps des surcharges des graveurs de métier n'est pas encore venu. Du maître E.S., je raffole de cet extraordinaire alphabet figuré composé de 23 planches véritablement surréalistes. La lettre se fait tour à tour, figure animale, végétale, personnage, paysage, en une étourdissante énumération de tours graphiques dues à l'outil d'un virtuose aussi précis qu'éblouissant. La lettre T, vers 1460. Son œuvre est numériquement la plus considérable du début de la taille douce. On attribue à cet artiste 314 burins, probablement exécutés entre 1440 et 1467. Le maître E.S., un monogrammiste encore non identifié, bien digne de constituer, avec le maître des cartes à jouer et Martin Schongauer, la trilogie des grands burinistes allemands avant Albrecht Dürer, le maître des cartes à jouer. Le maître E.S., Martin Schongauer, Albrecht Dürer, Weitstoß, Aldegrever, Altdorfer, sept chantres du burin créateur rhénan à son âge d'or, sept résonances, sept touchés, sept textures, sept écritures immédiatement perceptibles. Tout de suite, reconnaissable. Nous allons être surpris. Attention, ne tombons pas à la renverse. Les pays rhénans n'ont pas le monopole du burin septentrional au XVe et au XVIe siècle. Les Pays-Bas, après leurs artistes anonymes, contemporains du maître E.S., voient naître un Mozart de la gravure, un Wolfgang Amadeus Mozart, Lucas de Lède, qui, entre l'âge de 11 ans en 1505 et l'âge de 14 ans en 1508, grave 19 cuivres d'une inimaginable précocité. Parmi les cuivres de Lucas enfant, le garçon à la trompette, le péché originel, et ses œuvres laissent pressentir les burins de la maturité. Le péché originel, 1529, 35 ans. Dieu interdit de manger le fruit de l'arbre, encore une fois, 1529, 35 ans, thème récurrent, Leitmotiv chez Luca. L'ivresse de Mahomet porte la date 1508. Luca a 14 ans. Cette gravure à intention moralisatrice illustre les méfaits de l'alcool. Le sujet est inspiré par un récit de voyage célèbre au Moyen Âge que le chroniqueur Jean Mandeville écrivit après sa visite au Proche-Orient en 1327. L'adolescent surdoué en tire une œuvre majeure. Je résume Jean Mandeville sans le citer. Pendant le profond sommeil de Mahomet, complètement ivre, son serviteur lui emprunte son épée et tue le moine Sergius. Pour susciter le doute, il dépose ensuite avec précaution cette épée sur le genou gauche de son maître endormi. On voit le moine Sergius couché de guingois, le cou entaillé. À son réveil, Mahomet, ne se souvenant plus de ce qu'il fit ou ne fit pas durant son ivresse, prendra la décision d'interdire l'usage du vin à ses sectateurs. Une immense gouge fermée pend symboliquement à une branche de l'arbre. Le buriniste créateur précoce, affirme sa virtuosité contenue. Cette estampe a des reflets argentés qui sont de ma sa meilleure veine. Luca excellera, toujours et inévitablement, dans la traduction des lointains par la subtilité d'un graphisme ineffable. Perspective aérienne encore dans la danse de Madeleine. En raison de la qualité de son toucher, exceptionnellement sensible, incisif, je dois avouer que Luca est un buriniste créateur qui m'émeut plus que tout autre. Du calvaire à la laitière, de Adam et Ève chassés du paradis terrestre au meurtre d'Abel. À l'exception cependant de ces 10 derniers cuivres dont le style se teinte d'académisme, s'affadit et perte en luminosité. Ainsi, Prudentia. Une ultime précision sur Lucas, ou plutôt une imprécision. Et selon certains historiens, notre artiste ne serait pas né en 1493, mais 2 ou 3 ans plus tôt. Il ne serait donc plus un enfant prodige, mais un adolescent surdoué. De toute façon, enfant prodige ou non, c'est un prodigieux graveur, voilà bien l'essentiel. L'admiration réciproque de Dürer et Luca de Leyde est légendaire. On sait qu'au cours d'un voyage de Dürer aux Pays-Bas en 1521, les deux artistes ont échangé un grand nombre de leurs gravures. Dürer avait 50 ans, Luca avait 27 ans ou 30. Albrecht Dürer, Luca de Leyde, deux des grands buriniste créateur de tous les temps. Deux exacts contemporains. Deux graphismes immédiatement perceptibles. Mais pour percevoir véritablement ces différences, il faut directement toucher du regard la texture de l'œuvre originale et non par l'intermédiaire de l'écran, merveilleux outil pédagogique cependant, même s'il est artificiel, même si il nous fait souffrir. Burin italien, sans atteindre les sommets du burin septentrional, le burin méridional, burin italien, marque quelques temps forts au XVe et XVIe siècle. Après l'ère des gravures anonymes, groupées ensuite les planètes, les prophètes et les sibylles, les tarots, les manières fines et les manières larges, surgissent deux burinistes créateurs marquants, Pola Iolo, Mantegna. Une estampe célèbre de Pola Iolo, Le combat des hommes nus, vers 1465. Œuvre d'une importance extrême dans l'évolution de la gravure sur cuivre, car elle incarne avec force la double orientation esthétique de l'art du burin. L'une, rattachée au style artisanal et ornemental des orfèvres de la fin du Moyen Âge, l'autre, annonçant la forme picturale de plus en plus libérée des peintres graveurs du XVIe siècle et des temps modernes. Comprendre l'esthétique du burin, n'est-ce pas en effet se rappeler qu'avant d'être un outil de peintre, il était originellement un outil d'orfèvre. Dès la mise au point vers 1430, dans les ateliers septentrionaux, vers 1430 dans les ateliers septentrionaux et non vers 1460 dans les ateliers méridionaux, comme on le dit trop souvent depuis Vasari. Dès la mise au point, vers 1430 dans les ateliers septentrionaux, d'une invention curieusement sans nom d'inventeur, la presse pour gravure en taille douce, nombre de graveurs orfèvres se mue en graveur d'estampe et le burin passe alors insensiblement des mains du ciseleur dans l'atelier du peintre. Sans trahir leur goût originel pour l'arabesque et la fioriture, ces orfèvres évoluent vers une écriture picturaliste pour traduire leur vision poétique ou les formes observées dans le monde alentour. La symbiose de la tendance ornementale et de la tendance picturale, particulièrement significative au XVe et XVIe siècle, s'estompera, sans jamais disparaître. Elle se réalise à miracle dans le célèbre combat des hommes nus. Pollaiolo y déploie un style superbe et virtuose, pourtant le songe est là. Cette apothéose du corps humain est l'invention fabuleuse d'un chantre du burin. Au XXe siècle encore, le vocabulaire signographique de quelques beaux burinistes créateurs, de Henri-Georges Adam à Roger Vieillard, relève, sans dommage, sans anachronisme, de cette riche dualité originelle que l'on croirait à tort le fait d'un temps révolu. Il faut le voir pour le croire. Roger Vieillard, chimère. Roger Vieillard, un orfèvre, un poète. Je viens de lire quelques lignes d'un de mes textes intitulé « Du burin d'orfèvre au burin de peintre ». À la différence de Pollaiolo, Mantegna n'est pas orfèvre, cela se ressent. Sa bataille des dieux marins s'inscrit dans la continuité du combat des hommes nus, mais avec moins de fioriture et plus d'ascétisme graphique. Mantegna est un buriniste puissant et fougueux, sculptural et austère. Ses fulgurances entaillent obliquement le cuivre dans un rythme effréné, aux antipodes du sage burin rangé. Il travaillait souvent, d'après ses esquisses, à l'unisson et en osmose avec d'autres artistes de son atelier, selon l'usage de cette époque. C'est pourquoi on parle souvent des gravures de l'école de Mantegna. Hercule et l'hydre est une gravure de l'école de Mantegna. Jacopo degli Barbari, Jacob Valk, dont nous avons parlé à propos d'Adam et Ève, est un créateur d'une étonnante modernité, affectionnant souvent les formes simples. Pégase ne surprendrait peut-être pas dans une exposition d'artistes d'aujourd'hui. Campagnola inaugure l'ère du pointillé en 1510 dans sa Samaritaine. L'artiste pique des points au burin, on voit ses pizzicati dans la partie inférieure gauche, tandis que Cristofano Robetta est un survivant du Quattrocento qui conserve la grâce d'un Filippino Lippi. Il n'est ni dessinateur très sûr, ni graveur habile, mais un charme sensuel, un peu morbide, attachant, se dégage de la fragilité même de son graphisme. J'aime beaucoup cet artiste. Pour être touché par son style très personnel, il faut voir plusieurs de ses planches. La vieille et les deux couples. Pollaiolo, Mantegna, Jacopo degli Barbari, Campagnola, Robetta, cinq burinistes créateurs transalpins, 15e siècle finissant, 16e siècle commençant, cinq changements de timbre avec un même instrument. Et les variantes sont encore plus grandes si l'on compare chacun de ces cinq artistes à ses contemporains rhénans. Le burin, décidément, n'est pas un instrument monocorde. Très différent de ses prédécesseurs, le bolognais Augustin Carrache achève la trajectoire du burin transalpin au XVIe siècle. On lui doit 274 burins sur cuivre. Sa virtuosité excelle dans les grands formats, son portrait du Titien 1587 est presque grandeur nature, le contraire des mini-portraits de Rembrandt. Il est traité dans une technique assurément classique, on y décèle l'approche du beau métier XVIIe siècle, qui atteindra deux points culminants en France avec Robert Nanteuil et Claude Mélan. Robert Nanteuil, Claude Mélan. Deux noms prestigieux du burin créateur français au XVIIe siècle. Ils ne sont précédés au XVIe siècle dans notre pays que par un seul vraiment grand buriniste, Jean Duvet. Apocalypse figurée, planche 1. Usant de son burin d'orfèvre pour projeter son rêve dans une solide structure, le visionnaire Jean Duvet, encore par trop méconnu, crée sur le thème de l'Apocalypse, puis de la licorne, une suite de planches véritablement fantastiques qui ne cesserait aujourd'hui d'étonner si les médias avaient l'heureuse idée de s'emparer de cet artiste. Le graveur Jacques Houplin, un géant de l'eau forte au XXe siècle qui est dans la salle, s'est longuement penché sur l'œuvre de Jean Duvet. Qu'il me pardonne ce raccourci oratoire. Jean Duvet, contemporain de Durer et de Lucas de Lède, ne ressemble qu'à lui. Jean Duvet est un génie indépendant, un cas isolé. Il n'a pas de précurseur, pas d'héritier. On ne retrouve trace de son style ni chez Robert Nanteuil, ni chez Claude Mélan. Robert Nanteuil, buriniste fécond, on lui doit 221 portraits, la plupart du temps des originaux, un petit nombre d'après Lebrun, Mignard, Philippe de Champaigne. Il grave tous les héros de la Fronde, Turenne trois fois, Retz, Beaufort, j'en passe. Il a pour modèle tout ce qui compte à la cour. 11 portraits du cardinal Mazarin, 6 fois Colbert, 14 fois Louis XIV. Louis XIV, 1672. Amour du beau métier, rigueur formelle naturelle, vision d'ensemble, analyse du détail, application spontanée de la règle, non soumission à la règle. En cela, Robert Nanteuil est un classique, pas un académique. Autre grand classique, Claude Mélan. Derrière une apparente froideur, un buriniste créateur hypersensible, virtuosité paroxysmale qui paradoxalement peut atteindre une dimension lyrique. Comme Franz Liszt, les prouesses digitales de Franz Liszt sont lyriques. La sainte face déroule une taille unique qui part du bout du nez et s'enroule en spirale régulière sur toute la surface du visage. Aucune interruption dans son voyage sans retour. L'outil pénètre plus ou moins profondément le cuivre. Il modèle la forme sans un seul contour. Plus que jamais, l'intensité des valeurs est proportionnelle au degré de pénétration dans le cuivre. Un burin flexible crée l'atmosphère propice à cette apparition surnaturelle, incroyable mais réelle. Œuvre de technicien, œuvre de visionnaire, le miracle du fer rejoint le miracle spirituel. De qui est ce burin poétique, la lune, dernier quartier ? D'un graveur d'hier ou d'un graveur d'aujourd'hui ? Le fait de poser la question montre que Mélan n'est pas une référence historique à classer dans les archives, mais un artiste bien vivant. Là s'arrêtent les temps forts du burin créateur qui, du XVe siècle au XVIIe siècle, a connu un splendide parcours. Au XVIIIe et au XIXe siècle, le burin original sommeille pour laisser place au burin transcripteur d'une part, à d'autres techniques créatrices de la gravure sur métal d'autre part, qui ne sont pas vraiment à l'ordre du jour. Pointe sèche, eau forte linéaire et de teinte, manière noire essentiellement. 20e siècle, rapidement, grand réveil, renaissance du burin original, une cohorte d'artistes de premier plan, et c'est avec un serment de cœur que je projetterai seulement un petit nombre d'entre eux. flash presque sans commentaire, timbre spécifique, immédiatement reconnaissable, toucher particulier. Roger Vieillard. Notre-Dame. Entaille d'orfèvre, vision de poète. Un instrument ancien, une musique du XXe siècle. J'ai une pensée toute particulière pour Roger Vieillard, un ami, académicien. Il s'est éteint il y a quelques années, le 15 décembre 1989 exactement, peu après sa réception sous la coupole. Il disait toujours « Je voudrais que mes entailles dans le cuivre ressemblent aux traits des sonates pour clavecin de Domenico Scarlatti. » Domenico Scarlatti, son compositeur préféré que lui avait fait redécouvrir son ami, le claveciniste Ralph Kirkpatrick, auteur du catalogue le plus complet des sonates de Scarlatti. Ralph Kirkpatrick est à Domenico Scarlatti ce que Ludwig Köchel est à Mozart. Je pense que les musiciens présents, en particulier une grande claveciniste française, ne me contrediront pas. Comme Jacques Callot, accroifortiste XVIIe siècle et non buriniste, comme Piranesi, accroifortiste XVIIIe siècle, comme Rodolphe Brédin et Charles Mérion, deux aquafortistes exacts contemporains de Delacroix, si différents l'un de l'autre, comme Mario Avati, manière noiriste, bien vivant, magistral manière noiriste. Comme tant d'autres hier aujourd'hui, Roger Vieillard s'était voué à la gravure sans vraiment avoir suivi un parcours créatif de peintre. C'était son option, c'était peut-être aussi sa fierté. Après tout, Domenico Scarlatti n'a composé que des sonatines pour clavier, à l'exception de quelques œuvres vocales de jeunesse ou plus tardives. Ne pas confondre Domenico et Alessandro, son père, qui lui était compositeur d'opéra. Chopin n'a composé que pour le piano, ou presque. Verlaine n'a écrit que des sonnets, et Modigliani n'a été que peintre et sculpteur, jamais graveur, doit-on s'en plaindre. Quant à Schongauer, de l'avis même de ses admirateurs, c'est le graveur que la postérité retient beaucoup plus que le peintre. Et l'on sait que les belles épreuves de Dürer, dans leur tirage d'époque, font des prix parfois plus élevés que ses peintures. Autre artiste du XXe siècle, qui était essentiellement buriniste sans être peintre, à qui nous pensons tous ce soir, Jean-Marie Granier, académicien depuis 1991, je crois. Il s'est éteint le 5 août 2007, à l'âge de 85 ans. Sa technique si complète savait ne jamais être démonstrative pour que toujours affleure l'allusion poétique. Il aimait beaucoup cette planche vigoureuse et magistrale de 1974, extraite de sa suite « Les Cévennes », son pays natal. On oublie sans doute trop souvent que le sculpteur Henri-Georges Adam était aussi un des plus puissants burinistes du XXe siècle. Le violon, burin sculptural, découpant une forme à connotation abstraite malgré l'allusion figurative. Et les vivants, George Ball, Torrent, notre ami George Ball, George sans S, américain, burin lyrique, burin véhément, les mains de George Ball. Pierre-Yves Trémois, hommage à Dürer. Burin transparent, incisif, lumineux, d'une élégance aristocratique. Miraculeux mariage de la structure et de la spontanéité. Dans l'œuvre de Pierre-Yves Trémois, comme dans celle de tout graveur sensible et structuré, l'entaille est toujours pénétrante, même dans les nuances claires. Un glissement superficiel de l'outil ne retient pas l'encre et donne à l'impression des grilles aussi essoufflées que des pianissimi détimbrés quand les doigts du pianiste n'enfoncent pas assez les touches de son instrument. Nathalie Graal, plus près au large, Nathalie Graal. Burin suggestif, tout en sfumato, jamais linéaire. Jean-Pierre Tingaud, burin mystique et virtuose, à forte charge émotionnelle. Dans les mains de Jean-Pierre Tingaud, le burin est un sismographe, capable d'enregistrer chaque pulsation de sa sensibilité. Éric Robert Aimé, Opus Pistorum, burin onirique, aux confins de la matière et de la lumière, émouvant, burin et techniques additionnelles. Éric Robert Aimé nous montre avec un talent inouï que le burin peut épouser l'eau forte et l'aquatinte. René Kilivic, l'île du Ponant. Sobriété stylistique. Un artiste aux antipodes des artifices techniques et médiatiques. Belle fraîcheur d'exécution. Ce Grand Prix de Rome de gravure 1952 a été élu à l'Académie des Beaux-Arts en 1994. Louis-René Berge, Quelques chaises et autres, 1980. En taille ininterrompue, aussi soutenue que le son long du violon. L'art de faire chanter les blancs sur une ondulation grise. L'orthodoxie technique n'exclut ni imagination, ni écriture personnelle. Élu à l'Académie des Beaux-Arts en 2005. Enfin, retour en arrière. On ne peut passer sous silence un des principaux artisans de la renaissance du burin au XXe siècle. Jean-Émile Laboureur, 1877-1943. Cubisme élégant, d'une grande clarté d'expression. Les mains de Jean-Émile Laboureur, la blanchisseuse. Ces exemples nous le montrent, le burin est sans doute un art rigoureux, mais pas seulement confiné dans les officines académiques des reproducteurs des temps passés. Au XXe siècle comme au XVe siècle, on peut être un lyrique du burin et faire naître, à la pointe de son instrument, des entailles palpitantes de vie. Un dernier mot pour clore cette séquence. Que m'inspire cette longue suite de 60 gravures, aux multiples résonances, aux graphismes si différenciés, avec un instrument de création qui n'a pas changé du XVe siècle à nos jours. Une même couleur, sortie d'un même tube, rayonne différemment d'un peintre à un autre. La touche de Van Gogh n'est ni la touche de Cézanne, ni la touche de Monet, ni la touche de Seurat, et les quatre qualités de touche sont immédiatement perceptibles, tout de suite reconnaissables. À partir d'un même son de base, un instrument résonne autrement d'un compositeur à un autre et d'un interprète à un autre. Les timbres spécifiques du piano de Chopin, Debussy, Maurice Ravel, Olivier Messiaen, Ligeti sont immédiatement perceptibles. Tout de suite reconnaissable. Avec un même outil, pointe, burin, berceau, brunissoire, eau-forte, chaque authentique graveur peut avoir son toucher et créer sa propre texture émanant de sa sensibilité, comme chaque peintre sa touche, chaque musicien son timbre. N'est-ce pas le sens même de création gravée? N'est-ce pas la raison d'être de la gravure originale? Je ne puis, évidemment, laisser cette phrase en suspens sans la prolonger quelques instants par un regard sur la transcription gravée. Les graveurs transcripteurs s'expriment-ils eux-mêmes à travers leurs modèles comme certains musiciens? Ne sont-ils que d'interchangeables fabricants de moules à images? Les réalités artistiques ne sont pas aussi tranchées que les mots. Il faut savoir nuancer. Séquence 2, séquence éclair, 10 minutes, du burin créateur au burin transcripteur. Je n'hésite pas à projeter successivement deux œuvres qui ont 257 ans d'écart, avec inversion chronologique, pour mettre en évidence deux conceptions foncièrement différentes de la transcription gravée. La reproduction et l'interprétation. Ce visage gravé dans le cuivre à la roulette et au burin en pointillé par Louis Marin Bonnet en 1767, d'après un dessin de François Boucher, est un archétype de la transcription facsimilée, simulation. Cette gravure semble nous dire « Regardez-moi bien, je ne suis pas gravure, je suis dessin ». Louis Marin Bonnet est un formidable prestidigitateur, un illusionniste. Il donne sur cuivre l'illusion optique du modèle dessiné et parvient à rendre manuellement exactement ce que restitueront au XXe siècle les procédés de reproduction photomécanique, héliogravure, offset, phototypie. C'est le but, évidemment, mais peut-on parler de gravure d'artiste en l'absence de tout apport personnel, même s'il s'agit d'une gravure artistement faite et de main experte? À l'opposé de la gravure en manière de crayon de Louis Marin Bonnet d'après François Boucher, ce burin sur cuivre, le massacre des innocents exécuté en 1510 par Marc-Antoine Raimondi d'après une série d'esquisses de Raphaël, est un archétype de la transcription-recréation, restructuration inventive du modèle dans une technique authentique et reconnaissable de graveur-créateur. Raimondi prolonge le geste de Raphaël avec le même instrument que celui de Schongauer, Durer, Luc Adled. Il y a osmose entre le créateur et l'interprète en même temps que métamorphose. C'est pourquoi le massacre des innocents est, à mon avis, assimilable à une gravure originale. En 1510, à 30 ans, Raimondi est le premier véritable interprète, le premier transcripteur soliste de l'histoire de l'estampe. En 1510, à 33 ans, Raphaël s'éprend d'un amour fou pour le travail de son graveur. Il loge Marc-Antoine, dit-on, dans sa maison. Pendant 10 ans, il lui confiera un grand nombre d'esquisses préparatoires ou postérieures à ses tableaux, ni dessins achevés, ni peintures achevées, mais des esquisses, afin de laisser à son interprète un champ de liberté créatrice. Voulez-vous en avoir une preuve? Voilà une des esquisses originelles sur papier que Raphaël a confiée à Raimondi pour le massacre des innocents. Durer est le grand nom du burin créateur au XVIe siècle, mais pas le seul. Raimondi est le grand nom du burin transcripteur au XVIe siècle, mais pas le seul. J'avoue prendre plaisir à voir cette suite de 47 paysages du Brabant, gravés à l'eau forte et au burin au cœur du XVIe siècle dans l'atelier de l'Anversois Jérôme Koch, d'après des dessins de Peter Bruegel l'Ancien. Écriture libre, claire, ignorante de la taille académique, pour la plus grande joie de l'amateur d'estampes originales. On a beaucoup gravé. D'après Bruegel, lui-même n'a réalisé qu'une seule gravure. La chasse au lapin sauvage. Gravure à l'eau forte, 1566. Gravure spontanée, fra presto, qui ne manque pas d'un certain charme. Un essai sans lendemain. Une pièce de collection d'une écriture assez nouvelle à l'époque, finalement. Ses prédécesseurs dans ce registre technique, stylistique et thématique sont rares, principalement Altdorfer et Hirschvogel. Et bien heureusement, le XVIIe siècle, le transcripteur n'est pas toujours académique, j'avoue. Aimer ce burin vivant, sensible, intelligent d'Antoine Masson. D'après le peintre Blanchet, j'ai vu la peinture, elle est terne, elle est plate. Masson l'a transfigurée. Décidément, nos traducteurs ne sont pas tous que des forts un thème. Dans un article intitulé « De la transcription », j'ai écrit ceci. Transcription n'est pas forcément reproduction. Traduire sur cuivre, au burin par exemple, les vastes étendues chromatiques d'une peinture, c'est entreprendre un processus de restructuration singulièrement comparable à celui du compositeur qui adapte au timbre du clavier et aux 10 doigts de la main toute la polyphonie d'une page orchestrale avec les vibrations confondues des cuivres, des cordes, des percussions. Dans les deux cas, il faut entièrement repenser une œuvre pour l'accorder aux possibilités techniques et expressives d'un instrument autre, tour de force parfois inspiré et qui, surtout lorsque le transcripteur est d'abord créateur, peut dépasser l'exploit de virtuose. C'est le cas en musique de Bach, transcripteur de Vivaldi, Franz Liszt, transcripteur génial de Bellini, Beethoven, Wagner, Verdi, Wagner, l'époux de sa fille, Cosima, Schubert, Bach, Berlioz, j'en passe évidemment. On lui doit 350 transcriptions. Brahms et Busoni, transcripteur de Bach. Ravel, transcripteur de Moussorgski, les tableaux d'une exposition. Luciano Berio, transcripteur de Kurt Wahlwitt. À l'image de talentueux compositeurs, certains graveurs originaux s'adonnent parfois à la transcription et continuent d'exister à travers leurs modèles. Le cas de Jacques Villon est à cet égard un exemple convaincant lorsqu'il s'est mis à recréer dans une technique personnelle de buriniste, d'aquatintiste, de pointe-séchiste, les pointures de Picasso, Dufy, Manet, et aussi Braque, Modigliani, Marquet, Bonnard, Cézanne, Van Gogh, Monet, leur donnant vie nouvelle. Cette pointe sèche de Jacques Villon est une interprétation spontanée, sans sophistication, du Déjeuner sur l'herbe d'Édouard Manet. Savez-vous que le Déjeuner sur l'herbe de Manet est d'une certaine manière issu d'une gravure ? Laquelle ? La composition dans laquelle s'inscrivent les trois personnages. Gustave Manet, frère du peintre. Le sculpteur Ferdinand Lenoff, beau-frère du peintre. La chanteuse Victorine Meurant, nue auprès d'hommes habillés, ce qui fit scandale en 1863 au Salon des Refusés. Dérive à l'évidence de la composition dans laquelle s'inscrivent les trois dieux marins qui personnifient le fleuve dans la partie inférieure droite de la gravure de Raimondi, le Jugement de Paris. Cette gravure étant l'interprétation d'une esquisse de Raphaël, Manet s'inspire de Raphaël via Raimondi. Velázquez, les Ménines. Goya, les Ménines. Velázquez, les Ivrognes. Goya, les Ivrognes. Et voilà 230 années que Goya, suivi plus tard par Manet, a gravé pour son propre plaisir, en 1778 à l'âge de 32 ans, des Ménines aux Ivrognes, une suite de 15 eaux-fortes d'après Velázquez, dans sa griffe d'aquafortiste créateur. Son nain est un vrai Goya, plus proche de son garrotté. Au fort original, que du modèle peint par Velázquez. Velázquez, Ésope, Goya, Ésope. Quant à son interprétation d'Ésope, elle est une manière de symbole et rappelle que Jean de La Fontaine, prônant sa théorie de l'imitation originale, se serait inspiré, dit-on, de ce fabuliste grec à travers les répliques du moine Planude, pour les recréer, avec son imagination de poète, les vertus de son style, sa pensée de moraliste. Je vous rappelle ces vers de l'épître à Huette de La Fontaine. Souvent à marcher seul, j'ose me hasarder. On me verra toujours pratiquer cet usage. Mon imitation n'est pas un esclavage. Ésope ou pas Ésope, La Fontaine nous dit qu'il imite. Au XXe siècle, évidemment, le développement des procédés de reproduction photomécanique a progressivement entraîné la disparition bien naturelle du graveur transcripteur à vocation utilitaire. Mais n'a-t-on pas ponctuellement assisté, dans le même temps, à un regain d'intérêt pour la transcription ludique, métamorphosant complètement le modèle, pur prétexte à variation et à improvisation. ainsi cette linogravure de Picasso, d'après un portrait de femme de Luca Cranach l'Ancien, ou encore cette savoureuse paraphrase lithographique de Christian Zeimert, La théière de Chardin, ou La théière de Chardin, comme on voudra, d'après le célèbre portrait à la Bajour. Je ne puis clore cet intermède sur la transcription sans prononcer le nom d'une artiste d'aujourd'hui tout à fait atypique, Cécile Reims, née en Lituanie en 1927, digne héritière de Marc-Antoine Raimondi, le plus souvent buriniste créatrice, mais aussi interprète lucide des dessins à connotation onirique de deux chantres du surréalisme, au sens large du terme, Hans Bellmer et Fred II, son époux. À l'écran, un burin de Cécile Reims d'après Hans Bellmer, et voici un burin de Cécile Reims d'après Fred II. Le premier, l'œil sexe, le second, les passagers. Dans son récit autobiographique, L'Épure, Cécile Reims nous fait revivre, pas à pas, de l'enfance à la maturité, le parcours d'une petite Lituanienne arrachée à son milieu d'origine et qui cherche désespérément à prendre racine quelque part. Texte chargé d'émotions, le style de Cécile Reims, écrivain, est aussi clair que l'entaille de son burin. Conclusion de cette séquence et de cette communication. Il est vrai, certaines boutiques à l'enseigne de gravures anciennes regorgent d'estampes de reproduction, laborieuses, plates, ternes, soporifiques, sans vie. Mais l'histoire n'est-elle pas souvent riche en fortes gravures d'interprétation, beaucoup plus intéressantes que d'insipides plagiat, abusivement appelées gravures originales? Une phrase de Paul Valéry risque à ce sujet de nous laisser quelque peu rêveurs. Phrase qu'il faut naturellement prendre avec le sourire, un peu d'humour et sans aucune dramatisation. Le plagiat est à l'origine de toutes les littératures, sauf la toute première, que personne ne connaît. Paul Valéry. Voilà, je crois que j'ai fini. Il est l'heure, il est plus que l'heure. J'espère que nous avons passé un bon moment, malgré le caractère un peu strict du sujet. Je ne vous ai conté ni les amours de Roméo et Juliette, ni la vie sentimentale de George Sand, qui fut, de 1850 à 1865, la compagne, presque fidèle, du graveur Alexandre Manceau, à l'écran d'Aumier, l'amateur d'estampes.
Nous écoutions Claude Jean Darmon, correspondant de l'Académie des Beaux-Arts, qui intervenait en séance le 5 décembre 2007 dernier pour évoquer la gravure au burin, un outil d'orfèvre utilisé dès 1430 comme instrument de création.